Bonsoir à toutes et à tous. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Louis Lourme pour son livre « Cosmopolitisme et démocratie ». Louis Lourme est professeur agrégé et docteur en philosophie politique. Il est actuellement chercheur associé au sein du laboratoire Sciences, Philosophie et Humanité de l'Université Bordeaux-Montaigne. Il est spécialisé dans les questions touchant à l'actualité de la notion de citoyenneté mondiale, ce qui nous réunit ce soir. Il a publié récemment « Qu'est-ce que le cosmopolitisme ?» chez Vrin en 2012, « Le nouvel âge de la citoyenneté mondiale » au PUF en 2014, et il a traduit récemment, en 2009, « La démocratie cosmopolitique » de Daniele Archibugi aux éditions du CERF. Son dernier ouvrage est un collectif qu'il a co-dirigé avec Michael Feussel, Cosmopolitisme et démocratie, donc, paru il y a quelques semaines aux presses universitaires de France. Alors peut-être pour partir dans notre questionnement, je pourrais repartir pour le coup du paradoxe de l'idée cosmopolitique aujourd'hui. Il y a peu de temps, tout se passait comme si nos espérances portant sur l'idée d'une citoyenneté mondiale au sens fort du terme, nos espérances donc portant sur l'institutionnalisation politique du cosmopolitisme avaient été désavouées, comme si nous étions revenus de cette idée qui ne serait plus qu'un idéal d'une politique précisément à l'échelle mondiale. La mondialisation du commerce n'a en effet pas conduit à la mondialisation de l'état de droit. L'émergence d'instances pourtant aujourd'hui relativement nombreuses, d'instances donc et de juridictions internationales a été bien loin d'empêcher les guerres. Les nationalismes semblent avoir de beaux jours devant eux, en dépit de la crise des États-nations. Et pourtant, malgré finalement cette désillusion, pourrait-on dire, depuis les années 90, le concept de cosmopolitisme, au moins entendu comme citoyenneté mondiale, retrouve une actualité et une pertinence du fait de la multiplication des réseaux de solidarité transnationale, des problèmes liés aux risques globaux et du fait aussi du développement des modalités de gouvernance supranationale. Là où donc le cosmopolitisme semblait être devenu une utopie historique hein, qui appartiendrait au passé, et en particulier pour nous au passé de l'Europe, il semble être redevenu le nom de l'exigence ô combien cruciale de concevoir la politique au-delà de la sphère nationale, à un niveau donc supranational. Il y aurait donc, de ce point de vue, une repolitisation, on pourrait dire, du concept de cosmopolitisme, par laquelle il en vient à désigner une modalité d'exercice du pouvoir, donc avec une dimension politique, et non seulement une posture éthique reléguée dans la sphère des bons sentiments. C'est dans cette perspective, me semble-t-il, que tu proposes avec Michael Feussel de réinterroger une association qui, si l'on s'en tient au champ d'application respectif des concepts de démocratie et de cosmopolitisme, une association qui peut sembler au premier abord paradoxale. Vous vous êtes demandé si l'on pouvait tenir ensemble ce fait social et politique qu'est la démocratie et cette idée d'une citoyenneté mondiale. En d'autres termes, vous vous êtes demandé à quelles conditions le cosmopolitisme pouvait devenir réellement une politique, effectivement une politique. Vous envisagez donc à la fois, on pourrait dire, la démocratisation du cosmopolitisme, c'est-à-dire la manière dont la démocratie se trouve, ne se trouve pas d'ailleurs, institutionnalisée à l'échelle mondiale, et vous envisagez en retour la cosmopolitisation de la démocratie, c'est-à-dire la possible démocratisation du pouvoir à l'échelle supranationale mondiale. Perspective qui soulève des questionnements et des critiques que votre ouvrage met en lumière. Et peut-être, avant de continuer notre discussion, je vais te laisser présenter donc votre ouvrage.
Bon, alors merci d'abord pour le contexte général. Là, c'est remarquablement résumé. Alors d'abord sur la forme de l'ouvrage, c'est un collectif. Donc c'est un collectif qui s'inscrit dans une collection des presses universitaires de France qui a une particularité. Une petite collection qui est née il y a 3 ans au sein des presses universitaires de France, qui en est à une 20aine de titres déjà. L'idée, c'est que un partenariat soit monté avec le site de la Vie des Idées, qui est un site d'une qualité remarquable, qui propose des articles de fond sur l'actualité intellectuelle, des articles denses produits par des spécialistes sur différentes questions. Les presses universitaires de France ont eu le désir de se servir de cette base d'articles pour créer des volumes qui regroupent autour d'un thème différents articles de fond. Voilà. En demandant de réécrire un peu, en demandant aussi de l'adapter au format réduit de cette collection. Je le précise parce que ça veut dire que dans la composition du volume, les textes ne sont pas des commandes, les textes sont des textes dont on dispose déjà et qu'il faut réécrire avec les auteurs en question. Je le dis parce que ça donne aux différents volumes qui sont produits dans la collection une spécificité, quelque chose de très, enfin, qu'on espère assez accessible, même si c'est produit à chaque fois par des spécialistes, et regroupé sur des thèmes très souvent généraux. Il y en a sur le peuple, il y en a sur à quoi servent les élections, etc. Voilà. Traditionnellement, dans cette collection, c'est co-dirigé. C'est donc la composition des textes est dirigée par l'un des deux co-directeurs, et l'autre présente l'ouvrage. Voilà. Alors, la particularité de ce volume en particulier, c'est que les 4 textes sont inédits. Les textes de Jean-Marc Ferry, d'Étienne Balibar, de Michael Fossel sont issus du séminaire de Pierre Rosanvallon. Mon texte est issu du séminaire d'Alain Renaud à Paris 4. Et donc, on a regroupé ces textes-là parce qu'il nous a semblé, la Vie des Idées et les presses universitaires de France nous en ont proposé beaucoup, et il nous a semblé que ces 4-là se retrouver autour d'une unité de préoccupation. Alors, quelle est la préoccupation de ce volume? En fait, je crois qu'il y a deux objets assez généraux. Le plus large, on pourrait se dire, c'est la question qui consiste à se demander dans quelle mesure la démocratie peut être pensée à une autre échelle que l'échelle strictement nationale. Tu disais dans ton intro que la démocratie et le cosmopolitisme ont l'air de ne pas pouvoir être pensés ensemble. Je veux juste en dire un mot. La démocratie, par définition, c'est l'affaire du démos, du peuple. Ça veut dire qu'un peuple, c'est quelque chose qui a une histoire particulière, qui a une langue particulière, souvent, enfin bon, en tout cas qui a une identité, on pourrait dire, locale. Par rapport à cela, le cosmopolitisme, le cosmos, ça renvoie évidemment à quelque chose de plus général. Et donc on pourrait dire, associé cosmopolitisme et démocratie, il y a une forme presque, en effet, de paradoxe ou d'oxymore. L'idée du volume, c'est de réfléchir à la manière par laquelle on peut penser l'exercice de la démocratie à une autre échelle, donc, que l'échelle nationale classique. En gros, si on veut le dire en termes très courants de théorie politique, on pourrait dire que c'est un ouvrage sur la manière dont la démocratie peut être pensée à l'échelle supranationale. Voilà. Dans la composition du volume, il y a 2 types de textes. Les textes de Jean-Marc Ferry et d'Étienne Balibar sont concentrés sur la construction européenne. Alors, ce sont des textes de philosophie pure, hein, c'est-à-dire que nous dit la construction européenne de notre usage de la démocratie, du fédéralisme, quels espoirs on peut fonder dans le fédéralisme et quelles craintes. Les 2 textes ont le mérite de porter à peu près sur le même objet, d'être écrit par des auteurs d'une envergure internationale considérable, et des auteurs qui ne sont pas d'accord entre eux. Donc ça, pour nous, c'était bénéfique. Et puis les 2 autres textes, celui de Michael Fossel et le mien, sont davantage concentrés sur le cosmopolitisme, c'est-à-dire l'échelle globale, et on pourrait dire, pour Michael Fossel, une réflexion sur ce qui constitue le cœur, la nature du cosmopolitisme, c'est-à-dire son lien à la paix, à l'exercice de la paix, et pour le cas de mon texte en particulier, sur la justice globale, les questions liées à la justice globale, principalement liées aux questions de la pauvreté. Que faire, en gros, à l'échelle globale, de la réalité de la pauvreté? Voilà.
On y reviendra peut-être tout à l'heure si on a le temps. Alors, pour commencer, peut-être pourrais-tu revenir sur la genèse de ce concept de cosmopolitisme la stoïcienne que je suis, rappellerait volontiers les antiques. Mais est-ce que tu pourrais justement nous expliquer l'histoire et l'accélération aussi de cette notion ? Et puis peut-être le moment où elle croise effectivement la question du fédéralisme.
Alors, on aurait dû commencer par là, c'est sûr, parce que le cosmopolitisme, ça ne parle pas à tout le monde. Le cosmopolitisme, c'est une notion très, très simple, en réalité, et très ancienne, presque aussi ancienne que la philosophie elle-même. C'est un concept qui existe depuis 25 siècles environ. Je ne vais pas vous proposer 25 siècles d'histoire du concept, mais quand même, il y a des grandes lignes. Et ça renvoie à la notion de citoyenneté mondiale. Voilà. Se dire citoyen du monde, ça se fait dans la philosophie depuis à peu près 25 siècles. Et en règle générale, on se réfère à l'Antiquité, au moins à deux écoles dans l'Antiquité, le cynisme d'une part et le stoïcisme d'autre part. Mon idée, c'est que la citoyenneté mondiale, le cosmopolitisme, a un sens jusque vers le XVIIIe siècle, qui ne le quitte pas, et puis tout à coup, il se passe quelque chose, suspense. Je vais vous dire ce que c'est, rassurez-vous. Il se passe quelque chose qui modifie le sens de ce concept. Voilà. Alors, je dis un mot d'abord de l'Antiquité. Et en particulier, pour commencer, des cyniques. Le cynisme, c'est une école de philosophie qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ et qui propose, on pourrait le dire comme ça, pour résumer un peu la thèse des cyniques, qui propose une remise en cause de toutes nos conventions sociales ou juridiques, on pourrait dire de toutes nos normes. Voilà. Pour présenter cette tradition, habituellement, on fait référence à la figure de Diogène. Qu'est-ce qui est intéressant pour nous à propos de la figure de Diogène ? C'est précisément qu'on trouve, au milieu de toutes les anecdotes qu'on trouve sur Diogène, et il y en a énormément, et certaines, on ne pourrait pas les dire là, enfin, en tout cas pas moi, mais on les trouve, au milieu de toutes les anecdotes, il y en a une très particulière et qui est devenue un peu célèbre, un peu proverbiale. On lui demande d'où il vient, et il répond, c'est très simple, hein, y a rien de... on lui demande d'où il vient, et il répond, je suis citoyen du monde. Voilà. Et peu importe que cette phrase ait effectivement été prononcée par Diogène, ça importe peu, ce qui nous intéresse, c'est ce que ça dit de son rapport à la citoyenneté mondiale, du rapport des cyniques à la citoyenneté mondiale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, quand il dit cela, il dit qu'il n'est pas citoyen d'ici. Ça veut dire je suis citoyen du monde, ça veut dire je ne suis pas citoyen d'Athènes. Je ne suis pas citoyen d'Athènes. C'est une façon, donc, on pourrait dire négative, d'avoir un rapport à la citoyenneté réelle, effective. Il ne se sent pas soumis aux lois du corps politique auquel il appartient de fait, pourtant. Et pour le dire, il dit je suis citoyen du monde. Citoyenneté mondiale, ça signifie donc, dans cette acception-là, refus de la citoyenneté. Comme je refuse la citoyenneté athénienne, je dis je suis citoyen du monde. Comme s'il y avait, et c'est intéressant je crois pour nous, même actuellement, comme s'il y avait concurrence entre la citoyenneté réelle et la citoyenneté mondiale. Et ça on le retrouve chez des philosophes très contemporains qui s'interrogent sous quelles conditions je peux être en même temps citoyen français et citoyen du monde. On retrouvera cette interrogation un peu plus loin. Voilà. Alors ça, c'est la première occurrence. On pourrait dire que là, le cosmopolitisme, la référence au cosmopolitisme chez Diogène, c'est une forme d'antipolitisme. Je dis, je ne suis pas pris dans le corps politique auquel j'appartiens. Et puis, il y a les stoïciens, ensuite. Alors, c'est un peu différent, et je prends énormément de pincettes pour parler des stoïciens à côté de toi, parce que je sais qu'il ne faut pas que je dise n'importe quoi. Mais enfin, tout de même, je tente. La citoyenneté mondiale, chez eux, c'est une référence un peu différente. Ça revient à dire, si vous voulez, pour le sage stoïcien, le monde, la citoyenneté, on pourrait dire la citoyenneté mondiale, mais le monde, c'est-à-dire le cosmos, l'ensemble des êtres rationnels auxquels j'appartiens, l'ensemble des dieux et des êtres rationnels, bon, tout ça, c'est la cité réelle. Donc ça change par rapport à Diogène. L'idée, c'est que comme sage, en tant que sage, je devrais me projeter au sein de l'ensemble global, de l'ensemble, de cette cité-là, pour penser l'action juste au sein de ma cité. Donc il n'y a pas concurrence là, ce n'est pas un refus de la citoyenneté athénienne ou de la citoyenneté particulière. Dire je suis citoyen du monde, ça veut dire j'appartiens à l'ensemble des êtres rationnels et au nom de cette appartenance, je dois penser mon action dans la cité. Donc là, on change un peu, on pourrait dire il n'y a pas d'unité entre ces deux thèses-là. La cité réelle, c'est le monde, alors que chez Diogène, dire je suis citoyen du monde, ça veut dire je ne suis pas citoyen de la cité particulière. Ça a l'air très différent, mais pour moi, ça permet de dégager un sens classique de la notion, enfin, je crois. Et c'est ce sens classique que je veux essayer de définir d'une phrase que la période contemporaine vient remettre en cause. Le sens classique, c'est quoi ? C'est que dire « je suis citoyen du monde », que je sois cynique ou que je sois stoïcien, c'est une métaphore. Quand on dit « je suis citoyen du monde », je ne suis pas vraiment citoyen du monde. Je comprends ce que ça veut dire, mais je ne suis pas vraiment citoyen du monde. Ça renvoie plutôt à l'idée que je me fais du monde, de moi dans le monde, de moi par rapport aux autres, etc. Ça renvoie donc à un usage métaphorique de la notion. On est loin d'une citoyenneté réelle, comme nous, qui sommes citoyens français, et qui avons associé à cette citoyenneté des droits, etc. Il n'y a rien de tel, évidemment, ni chez les stoïciens, ni chez les cyniques, et on le retrouve même aujourd'hui dans le langage ordinaire. Si on se dit dans un dîner que... Alors on discute des différents voyages qu'on a fait, vous voyez. Et puis, si au milieu du dîner, il y a quelqu'un qui dit « Moi, de toute façon, je suis citoyen du monde », tout le monde comprendra ce qu'il veut dire. Ça veut dire quoi ? Qu'il a beaucoup voyagé, qu'il ne se sent pas dépendant des lois de son pays, ou qu'il a tellement voyagé qu'il est capable de remettre... Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais enfin, on comprendra à peu près. En tout cas, ça ne désignera pas une citoyenneté réelle, évidemment. Évidemment. En fait, si on prend cet usage classique de la notion, on pourrait la caractériser avec trois spécificités bien précises. D'abord, la citoyenneté mondiale, dans l'usage ordinaire ou dans l'usage classique en philosophie, elle est volontaire. Ça veut dire qu'elle désigne une conception que je peux ne pas partager. Bon, donc c'est volontaire. Ensuite, elle est individuelle. C'est tel individu qui choisit ou non de se dire cosmopolite, citoyen du monde. Et elle est éthique. Ça veut dire les liens dans lesquels je me trouve engagé au nom de cette citoyenneté mondiale. Je ne sais rien, je fais un voyage humanitaire pour aller construire une école au Népal, prenons un exemple comme celui-ci, par exemple. Eh bien, c'est au nom de ma citoyenneté mondiale, vous voyez, parce que je sens que les autres souffrent et que j'ai besoin de les aider. Le lien qui me tient, qui m'engage, c'est un lien éthique qui n'est pas contraignant. Voilà. Et donc, à proprement parler, ces trois éléments, donc je reprends, volontaire, individuel, éthique, eh bien, ces trois éléments fondamentaux, c'est très simple. C'est ça l'usage classique de la notion pour moi, c'est ça que la période contemporaine vient faire changer, et ça montre que la citoyenneté mondiale, de manière traditionnelle, on pourrait dire, c'est une non-citoyenneté. Voilà.
Et tu peut-être voulais revenir aussi sur cette modification que tu as commencé d'évoquer tout à l'heure, récente, du concept de cosmopolitisme, justement. Plus spécifiquement. Oui.
Alors, il y a quelque chose qui change, un coup de tonnerre dans l'histoire de la pensée. Ce coup de tonnerre s'appelle Emmanuel Kant, qui remet un peu au goût du jour la notion de citoyenneté mondiale en modifiant le sens et en introduisant dans la notion de cosmopolitisme une dimension politique réelle, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'il réfléchit à la manière dont mon appartenance au monde pourrait se traduire dans les faits politiques, et plus seulement dans une dimension éthique, l'idée que je me fais de moi-même. Voilà. Alors Kant, c'est le projet de paix perpétuelle, l'idée d'une histoire universelle du point de vue cosmopolitique, tous ces ouvrages de Kant qui modifient progressivement la notion, c'est fin 18e, début 19e, fin 18e, et à mon avis, ça amorce quelque chose. Mais la modification, on peut la creuser un peu. En gros, le gros de ma thèse, c'est que aujourd'hui, la citoyenneté mondiale désigne de plus en plus une citoyenneté réelle, effective. Ça n'est plus seulement métaphorique. Voilà. Alors, je l'explique un peu. Pourquoi c'est possible aujourd'hui alors que ça ne l'était pas hier ? Qu'est-ce qui a provoqué ce basculement ? Bon, j'en dis quelques mots. À mon avis, il y a trois arguments principaux pour penser l'origine de ce changement dans la notion. Il y a d'abord un développement de ce qu'on peut appeler la conscience cosmopolitique. Ça, l'idée que on se sent de plus en plus citoyen du monde. C'est très vague, ça se mesure. Il y a des sondages mondiaux depuis quelques années, des sondages à l'échelle du monde. Tu te sens d'abord périgourdin ou d'abord aquitain, ou bien est-ce que tu te sens d'abord aquitain ou d'abord français? Et puis on progresse comme ça, et partout dans le monde, on interroge sur le rapport que l'individu a à la citoyenneté. Et on observe qu'il y a des zones du monde où la citoyenneté mondiale a une importance considérable dans l'idée que je me fais de ma propre identité, et d'autres zones où ça n'apparaît pas. Bon, voilà. Donc d'abord, on pourrait dire qu'on se sent de plus en plus citoyen du monde, et même si on avait 3 minutes, et on les a, on pourrait dire que c'est presque une évolution nécessaire. C'est-à-dire que, alors ça c'est un argument kantien, on est sur une surface finie, sphérique, nous dit Kant. Donc, que tu le veuilles ou non, de toute façon, tu vas de plus en plus entrer en contact avec les autres. Et Kant, 1795, hein, il dit dans le projet de paix perpétuelle, à la fin, il dit une violation est commise à un endroit du globe, une violation du droit est commise à un endroit du globe, et instantanément, je le sais, moi, chez moi, en 1795. Donc, évidemment, c'est une intuition de Kant qui va aujourd'hui presque de soi. On est beaucoup plus au courant. Il ne suffit pas d'être au courant pour se sentir solidaire, etc. Mais enfin, on a au moins des éléments qui nous permettent de nous sentir plus facilement citoyens du monde. J'accélère un peu, mais voilà le premier point. Et il y a des résistances aussi. Le fait d'être plus informé, ça peut entraîner chez moi un rejet du monde, je sais bien. Mais enfin, il y a au moins les outils pour le développement de cette conscience cosmopolitique. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, qui fait donc un changement dans la notion, j'essaye de ne pas parler trop vite, mais je vais y arriver. Le deuxième argument, c'est plus décisif, à mon avis, c'est beaucoup plus important. C'est l'argument très factuel, très politique, selon lequel les États ont perdu leur autonomie. Progressivement, leur autonomie, pas leur souveraineté, leur autonomie. Sur plusieurs plans, il y a d'abord le plan économique. Le plan économique, l'État ne décide plus seul de ses orientations économiques, ou il est hautement concerné par le choix des autres. Il y a le plan politique. Les États sont pris dans des réseaux d'organisations internationales et ils ne décident plus tout seuls de ce qu'ils font. Et puis, il y a le plan juridique. Les États se sont progressivement dotés d'un droit international qui, même s'il est assorti d'un très faible pouvoir de contrainte, existe et se développe. Ça ne signifie pas que les États ne décident plus rien, mais ça va de soi, ou que toute la souveraineté a disparu, ça va de soi aussi, mais simplement que les pratiques aboutissent à une remise en cause de la vision classique des États, la vision des États comme des boules de billard, on disait. C'est Wolfers qui propose cette image. La vision classique, c'est l'idée que l'État serait une boule de billard qui peut s'entrechoquer avec d'autres, mais enfin, il reste fermé sur lui-même. Ça, cette vision-là, au XXe, mais dès la fin du XIXe, évidemment, cette vision-là, elle évolue. L'usage qu'on a de la souveraineté évolue. Elle ne disparaît pas, mais elle évolue. Troisième et dernier argument, il y en a d'autres. Hein, dans l'article, je développe surtout l'argument de la pauvreté mondiale, qui est un autre type d'argument, mais je le regrouperai sous ce troisième argument, sous le chapeau de ce troisième argument très général, c'est l'argument des risques globaux. Voilà. Tous les habitants de la planète partagent un ensemble de risques qui aboutit à une situation dans laquelle, que tu te sens ou non citoyen du monde, de toute façon, tout le monde est mis à niveau. Voilà. Ce n'est pas pour tous les risques aussi vrai. Mais enfin, il y a un certain nombre de risques qu'on découvre et qui nous mettent à niveau. Alors c'est un autre aspect de ce qu'on pourrait appeler la cosmopolitisation objective de nos rapports. Ça revient à dire qu'il y a une situation de risque partagée par tous, des risques sanitaires, des risques économiques, écologiques, tout ce qu'on veut, hein, qui exige que soit... qui exige que soit imaginée une nouvelle échelle politique, l'échelle cosmopolitique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie que je suis concerné par le problème de la déforestation, par exemple, non pas en tant que je suis citoyen français, parce que comme citoyen français, ça ne me concerne pas, la déforestation. Je suis concerné en tant qu'habitant de la planète. Voilà. Que je le veuille ou non. Voilà. Et il y a comme ça un paquet de risques qui me placent dans la même situation. Donc, on pourrait même dire ma citoyenneté nationale, elle peut avoir des intérêts tout à fait contradictoires vis-à-vis de mes intérêts cosmopolitiques. Par exemple, je prends cet exemple-là, ça va un peu de soi. En tant que citoyen français, je peux être intéressé par des lois qui faciliteraient la vente d'armes, par exemple. Ça peut m'intéresser, moi, comme citoyen français. Mais par une forme de schizophrénie cosmopolitique, je me scinde en deux, et je peux considérer qu'en tant que citoyen du monde, de telles lois poseraient des problèmes. Et ces différents risques globaux ne signifient pas que la citoyenneté nationale perdrait en pertinence, ça va de soi. Ça ne signifie pas non plus que la citoyenneté nationale serait inefficace ou inutile pour le règlement de ces, pour le traitement de ces risques, ça va de soi. Ça indique seulement que la citoyenneté nationale ne peut les résoudre seule. Parce que si je mise tout sur ma citoyenneté nationale, je vois qu'elle a des, elle a des intérêts parfois contradictoires avec les intérêts cosmopolitiques. Donc, si je clarifie par ces trois arguments l'origine du changement du concept, pour dire, je rappelle juste, pour dire la citoyenneté mondiale, ça n'est plus seulement une métaphore, c'est maintenant quelque chose de bien réel, sur le plan politique et juridique principalement, ben, si je clarifie comme ça cette origine du changement, je peux ensuite me poser la question très simplement, qu'est-ce que ça signifie de dire que je deviens réellement sur le plan politique citoyen du monde. Et la thèse que je défends, c'est que on peut distinguer deux voies pour diagnostiquer cette évolution de la citoyenneté mondiale, qui cesse donc d'être métaphorique, une voie non institutionnelle et une voie institutionnelle. Je me concentre là dans mon papier sur la voie institutionnelle, mais j'en dis simplement un mot. Il y a d'abord la voie non institutionnelle, alors là je crois que c'est quelque chose de très, on pourrait dire presque empirique, si vous voulez, très ordinaire, mais c'est le développement de ce qu'on appelle la société civile mondiale, si vous voulez. Par des biais non institutionnels, eh bien, il y a une sphère de l'action politique qui acquiert une autonomie de plus en plus conséquente à l'égard des États. Je le dis autrement, ça permet à des citoyens un engagement au-delà des cadres nationaux. Voilà, c'est tout. Ça veut dire que concrètement, ça n'est pas soumis à des institutions internationales et je peux, moi, en tant que citoyen, agir au-delà de mon cadre national. Voilà, le développement de la société civile mondiale, le nombre d'ONG augmente de façon exponentielle, mais il y a un site qui récapitule, qui rapporte sur deux siècles le développement et on voit l'accélération qui se situe dans les années 70 avec un tassement dans les années 2000. L'action politique mondialisée, l'action politique réelle mondialisée est de plus en plus possible. La société civile mondiale, c'est cet ensemble d'organisations qui agissent effectivement à l'échelle de la planète et qui offrent donc aux individus une voie d'accès à ce qu'on pourrait appeler un cosmopolitisme politique, pratique, réel. Ça veut dire on devient citoyen du monde. On peut continuer à le dire dans les dîners, si vous voulez, mais si on le dit dans les dîners, ça désigne plus seulement une métaphore, je suis citoyen du monde parce que j'agis comme citoyen à l'échelle de la planète. Voilà, je ne peux pas le dire plus simplement. Et donc il y a cette voie-là, qui est la voie non institutionnelle, qui se développe. Cette voie pose énormément de problèmes. Et pour ce qui m'intéresse en particulier, ça pose énormément de problèmes au regard même de l'idéal démocratique. Par exemple, pourquoi une ONG serait-elle plus légitime qu'une action d'État ? Est-ce que ça ne pose pas même des problèmes beaucoup plus graves, au sens où, au nom de l'idéal démocratique, je vais agir ailleurs sur la planète en menant une action contraire aux usages démocratiques ? J'en sais rien, on peut penser à l'Arche de Zoé, il y a quelques années, hein, des bourrées de bonnes intentions, une ONG qui va sur place et qui... bourré de bonnes intentions. Sur leur site, j'avais fait une capture d'écran, on n'a plus accès, mais sur le site, c'était bourré de bonnes intentions. Mais au nom de ces bonnes intentions-là, et au nom d'une forme de citoyenneté mondiale, on pourrait bien dire, je vais à l'encontre des principes démocratiques les plus élémentaires. Voilà, voilà. C'est une dérive, bien sûr, mais il y en a. Donc la société civile, malgré tout, donne du corps, de la densité politique à la notion de citoyenneté mondiale, qui n'est plus tout à fait donc un abus de langage, comme on le disait au début. Et puis il y a donc la voie institutionnelle, de laquelle je dis un mot. Oui, la voie institutionnelle, c'est très simplement l'idée que c'est très beau de pouvoir s'engager dans des ONG, mais ça ne fait pas de nous des citoyens au sens juridique. La voie institutionnelle, c'est celle qui considère que pour que la citoyenneté mondiale deviennent une vraie citoyenneté au sens plein, il faut passer par des organisations internationales qui vont m'affecter des droits et peut-être des devoirs réels et effectifs. Là, je serai vraiment citoyen du monde. Ça semble un peu farfelu, mais j'en dis quelques mots parce qu'on n'est pas si loin d'y être. Donc, évidemment, les questions, elles surviennent très vite. À quoi ça ressemblerait, une citoyenneté mondiale instituée ? Qu'est-ce que ça changerait? Est-ce que ce serait possible, d'ailleurs? Est-ce que ce serait souhaitable? Ça supposerait, je crois, entrer dans le détail de ces questions-là, ça supposerait d'analyser tout un arsenal de réformes auxquelles les philosophes sont en train de penser, et je pourrais en évoquer certaines, ça va de soi. Ce que je crois qu'il faut bien comprendre, c'est que pour chacune des réformes ou pour chacune des innovations institutionnelles, il s'agit simplement d'accorder une plus grande place à la participation des citoyens au sein des différentes sphères de gouvernance et en particulier à l'échelle mondiale. Alors qu'est-ce que c'est une institution cosmopolitique? Les institutions cosmopolitiques, ce sont celles qui permettent l'expression de ma citoyenneté à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, pour l'instant, ce qu'on connaît, ce sont les institutions intergouvernementales, internationales, interétatiques. En gros, qui se développent depuis un siècle et demi. Autrement dit, ce sont des institutions héritées du modèle classique des États. C'est l'État qui décide et qui intervient. Il y a une voix par État. Les institutions cosmopolitiques seraient celles qui prendraient la forme de structures permanentes qui permettraient la participation des acteurs non étatiques, quelle que soit la manière dont on imagine la participation de ces acteurs. Ça reviendrait à articuler à l'échelle mondiale donc deux types d'institutions, des institutions internationales et des institutions donc intergouvernementales, hein, si vous voulez, l'Assemblée générale de l'ONU, les organisations régionales, l'Union européenne ou l'Union africaine, les organisations interétatiques qui ont des compétences dans un domaine précis, le FMI, l'OMC, ça c'est intergouvernemental. Donc on associerait à l'échelle mondiale les institutions internationales et les institutions cosmopolitiques, d'autre part, qui, elles, seraient basées sur l'égalité entre les citoyens. Ça revient donc à distinguer simplement, entre guillemets, les citoyens étatiques et les citoyens du monde. Alors, généralement, quand je parle de ça, assez vite, la première question, ou la deuxième, c'est revient à me dire que c'est n'importe quoi, que ça n'arrivera jamais, que c'est pas possible. Je veux juste dire un mot. D'abord, les premiers qui ont eu l'intuition de ces organisations-là, c'est-à-dire fin 18e, n'osaient pas penser qu'on pourrait aller si loin, nous, dans la construction d'une intergouvernementalité. Donc, sur ce qu'il est possible ou pas de faire, je propose qu'on soit prudent. Et ensuite, non seulement on ne sait pas trop ce qu'il est possible de faire, mais il y a des choses qui se mettent en place déjà actuellement, bien réelles, qui vont tout à fait dans le sens de ces institutions cosmopolitiques. Je dis ça pour dire que ce n'est pas un doux rêve. Et je crois même à l'inverse que ce serait penser que les choses peuvent durer comme avant qui serait un doux rêve. Je crois que c'est plutôt ça. En guise d'exemple, donc j'en ai recensé quelques-uns, on peut évoquer le développement des parlements régionaux, évidemment, le Parlement européen, par exemple, c'est une institution cosmopolitique au sens où je peux exprimer ma citoyenneté à une autre échelle que l'échelle nationale. Mais il y a aussi des innovations comme les référendums supranationaux, le développement de forums démocratiques, le recours aux experts. À chaque fois, ça pose énormément de problèmes, hein. Bien sûr, ça c'est sûr. La création d'une Cour mondiale des droits de l'homme, proposition de Martin Scheinin, qui travaille à l'ONU et qui avait fait un colloque où nous étions tous les deux. On prend le modèle de la Cour mondiale, de la Cour européenne des droits de l'homme, et il dit on pourrait penser l'équivalent à l'échelle mondiale, voilà, et il le propose à l'ONU actuellement. L'amélioration de la représentation politique des acteurs de la société civile, et puis bien sûr, une autre institution cosmopolitique possible, j'ose à peine la dire tellement je sais qu'elle suscite au moins l'interrogation et au pire le rejet, c'est l'idée qui a été très largement discutée depuis 15 ans, 20 ans, c'est l'idée d'un parlement mondial qui est défendu par Richard Falk, un philosophe américain. C'est donc pas seulement notre citoyenneté qui trouve à s'exprimer là, qui trouve de nouveaux biais pour s'exprimer, c'est ces institutions-là qui construisent une autre modalité de la citoyenneté. Ça ne veut pas dire que ça évacue ma citoyenneté étatique, ça permet juste à ma citoyenneté, on pourrait dire, cosmopolitique, à mes intérêts cosmopolitiques, de trouver une résonance. Voilà.
D'accord, donc de ce point de vue-là, il y aurait quand même un dépassement de l'intergouvernemental, au sens le cosmopolitisme ne peut se réduire à un modèle de coopération internationale entre États.
C'est-à-dire que, bon, on pourrait le dire autrement, depuis les années 90, en gros, il y a des groupes de philosophes et de théoriciens politiques qui réfléchissent au type d'institution qu'on pourrait penser pour nous. Voilà. Et leur axe principal de travail est toujours le même. Comment je peux amender, pour démocratiser l'échelle mondiale, il y a sûrement des réformes à faire dans l'existant. Mais il y a aussi une part d'innovation. Et cette innovation, elle n'est pas guidée par le souci de remplacer l'existant, elle est juste guidée par le constat qu'il y a un vide, un manque. C'est-à-dire, il y a la politique intergouvernementale, légitime, efficace, pertinente pour plein de domaines, et il y a un vide, c'est en gros la défense de nos intérêts cosmopolitiques. Voilà. Et donc, comment répondre institutionnellement à ce vide? La société civile mondiale y répond de manière non institutionnelle, mais pose plein de problèmes, et sur comment on pourrait penser des institutions qui occuperaient cette place laissée libre. Et on ne le fait. Le moteur d'action, je le redis, c'est pas juste que les gens se sentent de plus en plus frères les uns des autres partout sur la planète, si vous voulez, c'est pas ça. C'est juste qu'on en a de plus en plus besoin. Il y a un article qui résume ça, le titre d'un article qui résume ça très bien, c'est un philosophe allemand, qui s'appelle, enfin un sociologue allemand, qui s'appelle Ulrich Beck, qui résume ça dans un de ses articles, qui dit « Kant ou la catastrophe ?» Voilà, on n'attend pas que tout le monde aime tout le monde, qu'on se retrouve tous en se tenant par la main dans une grande fraternité universelle. C'est simplement, on est dans une situation où, en gros, de toute façon, il va falloir institutionnellement s'entendre.
Certes, mais comme tu le disais, il y a deux voies. La voie non institutionnelle, où finalement, on a l'impression qu'on n'est pas tout à fait dans le politique, précisément, et ça pose plein de problèmes. Tu parlais des ONG, la question des intérêts économiques derrière, bon, etc. Donc d'un côté, il y a cette voie non institutionnelle où on n'est pas encore dans le politique, et dès qu'on veut institutionnaliser, on retombe dans un modèle intergouvernemental, donc dans quelque chose qui ne relève pas de ce peuple cosmopolite. Alors, la question de la politique, c'est quel est ce peuple? Comme tu disais tout à l'heure, dans une démocratie, quel est le peuple se gouverne? Mais alors, pour le monde, quel est ce peuple du cosmopolitisme, précisément? Surtout si, quand on regarde, soit on a des initiatives individuelles qui, quand même, reposent sur des engagements personnels, et que dès qu'on veut passer au niveau politique et institutionnel, on retombe dans des modèles intergouvernementaux.
Alors, d'abord, il faut se garder de croire que la situation actuelle serait de la pure intergouvernementalité. Ceux qui travaillent à l'ONU expliquent très bien la différence entre des délibérations entre États, avec des représentants des différents États, sur un sujet donné. Voilà, dans une salle fermée, clac, avec le type de résultat auquel on arrive, et les mêmes acteurs délibérant des mêmes sujets, autour de la table, ce sont les mêmes personnes, mais on a ouvert la porte et les représentants de la société civile mondiale peuvent assister au débat, pas y prendre part, mais assister. Et ils expliquent la manière dont les résultats se trouvent modifiés. Ça veut dire déjà, comment on pourrait dire, ce que je propose d'appeler la voie non institutionnelle, trouve des biais par lesquels il est possible de mettre le pied dans la porte de l'intergouvernementalité pour rappeler, on pourrait dire, à nos gouvernants que les intérêts étatiques ne sont pas les seuls. Ils comptent beaucoup et que bien souvent, j'en sais rien, la France, on peut être fier de plein de d'investissement de la France dans des préoccupations cosmopolitiques, on pourrait dire, mais le pied est quand même mis dans la porte pour dire, attention, il y a des intérêts nationaux, qu'il est normal que les États défendent, et il y a des intérêts cosmopolitiques. Savoir si l'institutionnel est forcément intergouvernemental, alors c'est peut-être une question qui semblera un peu technique, mais je crois que, en réalité, la manière dont les ONG s'institutionnalisent, la manière dont elle revendique auprès de l'ONU une place dans les débats, et la manière dont, au sein de l'ONU, on réfléchit à la façon dont on pourrait démocratiser davantage les procédures, non, ça montre que, non seulement c'est pas vain, mais que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Je veux dire, Martin Scheinin, c'est pas un rêveur farfelu, tu comprends, au fond de sa bibliothèque. C'est quelqu'un qui travaille à l'ONU, qui a produit un projet de Cour mondiale des droits de l'homme. C'est quelque chose qu'il remet, qui va être présenté, qui probablement sera mis en place, voilà. Avec les défauts de la Cour européenne des droits de l'homme, je veux dire, pour faire appel à la Cour européenne des droits de l'homme, il faut que j'ai épuisé les recours nationaux. Il faut que j'ai d'abord épuisé tous les recours nationaux. Donc on me dit bien, tu es d'abord citoyen français avant de faire appel à ta citoyenneté européenne. Malgré tout, ça existe. Donc petit à petit, ça se met quand même en place, quoi. Voilà.
Oui, mais de ce point de vue-là, le cosmopolitisme serait pris dans cette tension qui, comme tu dis, entre la voie non institutionnelle et la voie institutionnelle, comme s'il y avait quelque chose qui devait travailler l'institution de l'extérieur, avec tous les problèmes, effectivement, que ça pose dans la définition de cette politique, précisément.
Oui, parce qu'en plus, la question du partage de mes intérêts n'est pas si claire que ça. Je le présente là en quelques minutes, évidemment, mais ce sont des travaux qui ont 30 ans et qui sont des travaux considérables, quoi. C'est simplement pour mettre au jour, d'une part, sur le strict plan de l'histoire des idées, la nouveauté de l'usage qu'on a aujourd'hui de la citoyenneté mondiale, et d'autre part, les possibilités que ça offre en termes de rapport à la démocratie. Sur le premier aspect, on pourrait même observer quelque chose de presque négatif dans cette modernité de l'usage du concept de cosmopolitisme, c'est qu'auparavant, c'était un concept positif auquel j'adhérais par idéal personnel, par éthique personnelle, quelque chose qui me tirait vers le haut, alors qu'aujourd'hui, on a l'impression de moteur négatif. Hannah Arendt dit « la solidarité de l'humanité est entièrement négative ». Ça veut dire que c'est uniquement en réaction, elle parle du danger de l'arme atomique, mais c'est uniquement en réaction à des risques qu'on arrive à se sentir solidaire. Dont acte, peut-être en effet, que ce dont on fait le constat, là, c'est que pour nouer entre nous des relations pacifiées, on pourrait dire politiques entre nous à l'échelle de la planète, il faut un danger commun dont on prend aujourd'hui la mesure progressivement. Voilà, bon. La pauvreté mondiale, probablement que c'est un objet cosmopolitique par essence qui, pour être traité, a besoin d'institutions que pour l'instant on ne connaît pas. Thomas Poggi, qui est un philosophe américain, part de cette réalité-là, des chiffres, 500 000 personnes qui meurent chaque jour de causes liées à la pauvreté, 18 millions par an, de cette réalité-là, il dit, c'est une réalité cosmopolitique, et pour la traiter, la France peut faire un effort en réduisant la dette, j'en sais rien, les États-Unis peuvent faire tel ou tel effort, mais pour la traiter, on a besoin d'institutions, lui il parle d'une taxe mondiale, c'est un peu comme la taxe Tobin à l'époque, une institution qui traite réellement ce problème-là comme problème cosmopolitique, pas comme la somme de pauvreté particulière. Et bien sûr. Et on peut le faire, voilà, on peut le faire. Le premier travail de Thomas Poggi, donc madame disait, parce qu'on a une part de responsabilité, le premier travail de Poggi sur la pauvreté, c'est de montrer que c'est pas seulement choquant ou effarant, mais c'est injuste. Ça veut dire, on n'y est pas tout à fait pour rien, il y a une responsabilité cosmopolitique, je suis un petit peu responsable de ce qui se passe, et donc ça induit de ma part un traitement particulier de ce fait-là.
On va remercier chaleureusement Louis Lourme et vous pour votre présence.